100% d'Europe, Laurent Berthoud.
Sauf un petit village qui continue à résister.
Oui, je sais, il va falloir que je m'en occupe.
Bonjour à tous. Comme dans Astérix, on pourra presque parler des irréductibles Wallons. La Wallonie sous les feux des projecteurs pendant plusieurs jours. En mettant son veto à la signature par la Belgique du traité de libre-échange avec le Canada, cette région francophone belge a acquis une notoriété inégalée en Europe et dans le monde. La situation est désormais débloquée apparemment, mais dans la presse étrangère, la Wallonie a été critiquée ou admirée, c'est selon, pour son action à Bruxelles, Lakshmi-Lotha.
Le quotidien français Libération rebaptise la région la Wallonix. Le journal a représenté en une la célèbre page de BD Astérix montrant le village des Gaulois résistant à l'envahisseur romain en le situant en Belgique. Même au Canada, la Wallonie a trouvé des soutiens. Le journal de Montréal titre « Chapeau les Wallons ». Pour ma part, j'irai déguster une bonne bière tout à l'heure, une bière belge évidemment, conclut l'auteur de l'article. Le journal français Fakir est allé le plus loin en publiant une pétition pour le rattachement de la France à la Wallonie. Le texte a tout de même récolté plus de 9000 signatures. Mais tous les médias étrangers ne sont pas aussi admiratifs. Au Royaume-Uni, la BBC y consacre un sujet en disant bien sûr que personne ne connaissait l'existence de cette région avant le CETA. Le Royaume-Uni est à la merci des Wallons, dramatise même le Télégraphe. 2 millions de Wallons viennent de gaspiller 7 années de négociations, se plaint le magazine américain Fortune. Ce sont les adjectifs « petite » et « minuscule » qui reviennent le plus souvent dans la presse. « Minuscule enclave », dit le journal canadien The Globe and Mail. Enfin, un journaliste de la BBC risque de ne plus être bienvenu en Belgique puisqu'il ose, dans son article, mettre en doute l'origine des fameuses frites belges. Selon une théorie controversée, les frites « French fries » en anglais viendraient de Belgique, écrit-il, dubitatif.
Loin de Bruxelles, mais pas de ses préoccupations, nous partons maintenant en Méditerranée pour ouvrir un carnet de bord, celui tenu par notre correspondante en Italie, Mathilde Auvilin, embarquée comme volontaire à bord de l'Aquarius. L'Aquarius, c'est ce bateau affrété par l'organisation civile européenne SOS Méditerranée, en partenariat avec MSF, pour venir en aide aux migrants qui tentent la traversée. Mathilde a choisi de vivre cette expérience inédite pour voir de ses propres yeux et raconter ce qui se passe aux frontières de l'Europe. Voici le récit de ses premiers jours passés à bord.
2 semaines à bord de l'Aquarius et enfin, je ne me perds plus dans les couloirs du bateau. Alors ici, il y a les cabines de l'équipe de SOS Méditerranée. Il y a 9 personnes en tout. D'abord, le Sarco, le coordinateur de ce qu'on appelle ici les opérations de search and rescue, de recherche et de sauvetage en mer. Pour les prochaines rotations, ce Sarco, c'est Matthias Menger, un marin allemand. Et c'est déjà un vieux loup de mer pour SOS Méditerranée. SOS Méditerranée qui n'a pourtant commencé ses activités qu'en février dernier. Alors, suite de la visite, ici, c'est la cabine de l'adjoint du coordinateur des secours. En ce moment, c'est Max Avis. C'est un Irlandais qui a vécu en Californie, il a grandi au Kenya, il est passé par Lesbos il y a quelques mois. Il a enfin élu domicile sur l'Aquarius il y a quelques semaines. Concrètement, le rôle de Max, c'est pendant les sauvetages d'approcher à bord d'un des zodiacs de l'Aquarius les embarcations qui se trouvent en difficulté. Et c'est lui qui tire un à un les migrants d'affaires et qui les conduit à bord du bateau. Les autres membres de l'équipe de sauvetage, Stéphane, Antoine, David, Martine, Christina, eux dorment 2 étages plus bas. On ira la prochaine fois. Entre les deux, il y a l'étage des équipes de Médecins Sans Frontières qui est partenaire à 50% de SOS Méditerranée sur l'Aquarius. Mais à bord, SOS et MSF, c'est une seule et grande famille. Pour l'instant, tout est calme. Nous naviguons en direction de la SAR Zone, SAR, S-A-R pour Search and Rescue Zone, la zone de recherche et de sauvetage en mer. C'est une zone qui se situe à la limite des eaux territoriales libyennes et des eaux internationales. Et c'est là que la majeure partie des sauvetages se déroule, parfois à l'ouest de Tripoli, parfois à l'est. En tout cas, plus on s'approche de la zone et plus il faut être attentif. Sur le pont, le commandant de l'Aquarius scrute les écrans radars, décrypte les conversations radio, surveille l'horizon avec ses jumelles. Et une fois dans la zone, il contacte le MRCC, le centre de coordination des sauvetages basé à Rome. Ce sont en effet les gardes-côtes italiens qui organisent la répartition des opérations de sauvetage entre les différents bateaux qui sont présents sur zone. Comme SOS Méditerranée, il y a aussi plusieurs ONG qui sont présentes en Méditerranée avec leurs propres bateaux. Il y a MSF, MOAS, Sea-Watch, Jugendrettet, Proactiva et j'en passe. Et tous ont la même mission, sauver le plus de vies possible. En 2 semaines à bord, j'ai déjà participé à plusieurs opérations de sauvetage, une expérience qui ne laisse personne indifférent. Voir le Zodiac chargé de passagers dériver à l'horizon, percevoir la réalité de ce qu'on a pourtant vu et revu depuis des mois, des années dans les journaux télévisés, tirer les personnes hors de danger, leur donner la main, les aider à enlever leur gilet de sauvetage, leur souhaiter la bienvenue, les assurer qu'ils sont en sécurité à bord, tout cela devient des gestes spontanés, qu'on soit volontaire ou journaliste, sauveteur ou médecin, machiniste ou photographe. On est tous sur le même bateau, c'est le cas de le dire. Après le sauvetage, le nombre de passagers à bord de l'Aquarius est multiplié par 8, voire par 10, voire plus. Et comme il faut plus de 24 heures pour retourner en Italie pour le débarquement, entre-temps, la vie s'organise à bord et l'organisation est bien rodée. Elle est rythmée par la préparation et la distribution des repas, les visites médicales, les tours de garde. Et malgré les nuits sans sommeil, quand les côtes européennes apparaissent à l'horizon, à bord, la joie explose.
Je suis venu comme un oiseau qui vole dans le ciel. C'était mon rêve d'aller en Italie.
Sur l'Aquarius, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont toujours extrêmes. Et le bateau qui arrive au port pour le débarquement déborde d'humanité. Mais pas de temps à perdre. Une fois que tous les hôtes ont quitté le navire, il faut vite repartir pour la zone de recherche et de sauvetage où, à l'approche de l'hiver, les embarcations n'ont pas cessé d'affluer ces derniers jours.
À bord de l'Aquarius, le carnet de bord de Mathilde Auvillain que nous retrouverons très bientôt dans Accent d'Europe. C'est une question totalement occultée de la campagne pour l'élection présidentielle qui se tient ce dimanche en Moldavie, celle de l'émigration massive des Moldaves. Chaque année, ils sont quelques dizaines de milliers à partir tenter leur chance à l'étranger. Même si le pays survit par l'envoi de fonds de la diaspora, les conséquences de cette émigration massive sont inquiétantes. C'est un reportage de Julia Burke à Chisinau.
Trois fois par jour, un long train d'une dizaine de wagons peints en vert quitte Chisinau, la capitale moldave, pour rejoindre Moscou au terme d'un voyage d'une journée. Liliana, une professeure moldave, se souvient de son départ pour la Russie il y a 2 ans.
À 44 ans, je suis partie en train pour Moscou. C'était la première fois que je quittais mon pays pour travailler à l'étranger. J'avais peur de partir, la Moldavie me manquait déjà et je savais que j'allais être confrontée à de grandes difficultés là-bas. Quand je suis arrivée à 5 heures du matin, il faisait encore nuit, j'avais froid et peur.
Liliana parvient à trouver rapidement du travail comme nounou dans une école maternelle privée. Nourrie et logée, elle gagne 1000 euros par mois, contre 160 euros lorsqu'elle était professeure dans l'école de son village. Mais au bout d'un an, de retour en Moldavie, elle écope d'une interdiction d'entrée sur le territoire russe. Tenant absolument à travailler, elle parvient malgré tout à revenir en Russie en franchissant la frontière biélorusse peu surveillée à l'époque. Malgré l'argent qu'elle a pu amasser en Russie, son expérience l'a profondément marquée.
Se retrouver nounou alors que j'avais une expérience de 25 ans comme professeur, ça n'a pas été facile. J'ai dû m'adapter. Je me suis sentie humiliée et rabaissée de ne plus pouvoir être la professeure créative que j'avais été. C'était un travail monotone, de robot. En plus, la plupart du temps, quand on travaille à l'étranger, ce n'est jamais déclaré. De travailler au noir, cela ne nous apporte aucun plaisir. Mais en échange, on obtient une satisfaction matérielle qu'on ne peut pas avoir en Moldavie.
La migration moldave est un phénomène d'une ampleur exceptionnelle pour un pays qui compte 2,9 millions d'habitants. Comme Liliana, 350 000 personnes font la navette régulièrement entre leur pays et l'étranger. À ce chiffre, il faut ajouter les 585 000 Moldaves qui ont établi leur résidence principale depuis plus d'un an à l'étranger, dont la moitié en Russie et l'autre dans les pays de l'Union européenne. Chaque mois, la diaspora transfère jusqu'à 100 millions d'euros sur les comptes bancaires du pays. En 2014, ces fonds ont contribué à 26% du PIB de la Moldavie. Mais pour Olga Gagaouz, directrice du Centre de recherche démographique de Chișinău, la migration est un phénomène à double tranchant.
Bien sûr, il y a des effets positifs. Les envois de fonds depuis l'étranger ont largement contribué au développement socio-économique du pays, à augmenter le pouvoir d'achat et à réduire la pauvreté. Mais depuis quelques années, nous ressentons aussi les effets négatifs. Le rapport entre la population active et les retraités est en train de s'inverser, car les personnes en âge de travailler sont de moins en moins nombreuses. Le nombre de familles chute et donc le taux de natalité aussi. À cause de la migration, le pays pourrait perdre 40% de sa population en 2050. Évidemment, cela nous inquiète.
En moyenne, le pays perd 30 000 habitants par an. Un flux migratoire qui n'est pas près de se tarir. Ces dernières années, on assiste à une nouvelle vague d'émigration. Si dans les années 90, cela concernait principalement la main-d'œuvre rurale et non qualifiée, aujourd'hui, le profil est bien différent. Viorel Gărbu est consultant en économie pour des ONG moldaves. À 41 ans, il a un bon salaire, une bonne situation, mais cela ne lui suffit plus. Avec sa femme et ses deux enfants, il s'apprête à retourner en Allemagne où il a fait ses études.
En fait, j'avais vraiment l'espoir de pouvoir rester en Moldavie. Mais récemment, j'ai changé d'avis car les problèmes internes auxquels ce pays est confronté sont très graves et je ne vois pas comment ils pourraient être résolus. Aussi riche qu'ils soient, les citoyens ont besoin d'un cadre institutionnel qui leur soit favorable. Je pense en particulier au secteur de l'éducation, de la justice, de la santé et des administrations publiques qui sont tous dans un état lamentable.
Pour les Moldaves qui restent au pays, la situation est parfois compliquée. Liliane Enescu a 22 ans et travaille au sein d'une association. Fille aînée d'une fratrie de 5, c'est elle qui s'occupe de ses petits frères depuis que son père fait la navette entre l'Italie et la Moldavie et que sa mère est partie en Israël il y a 7 ans.
La fausse date.
On m'a donné ce rôle sans que je le demande. Je m'y suis habituée, mais c'est assez difficile. Car en comparaison, les jeunes de mon âge n'ont pas 3 enfants à gérer. Ma situation et celle dans laquelle sont de nombreuses familles où les enfants assurent le rôle des parents est injuste, car cela influence tout le temps les choix que je dois faire. Ah, je ne le reproche pas à mes parents parce que cette situation est inévitable et justifiée. Nous sommes 5 dans la famille, donc s'ils étaient restés pour travailler ici, ils n'auraient pas pu nous entretenir.
Les autorités moldaves se disent conscientes du phénomène mais peinent à trouver des solutions concrètes pour limiter le flux migratoire. Elles essaient aussi de favoriser les retours au pays, notamment en aidant à la création d'entreprises. Mais jusqu'ici, très peu de Moldaves ont fait ce choix, car ces mesures sont loin d'être suffisantes.
Un mini-scandale en Irlande du Nord après la sortie du très populaire jeu Mafia 3 sur les consoles. Le protagoniste est plongé dans diverses missions spéciales, dont une à Belfast, où le but est d'aider l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, à commettre des attentats. Ce qui, bien sûr, a fait bondir les unionistes qui ont carrément demandé le retrait du jeu des magasins, Julien Lagache.
Where she come from?
Ah, me arse.
L'univers de Mafia 3 est fictif, mais l'une des missions bonus se déroule sur un terrain qui a bel et bien existé, celui de l'Irlande du Nord, à l'époque de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, opposée à la présence britannique. Le joueur incarne Lincoln, un gangster qui, dans cette phase du jeu, doit prêter main forte à l'IRA. Il rencontre Thomas Burke, qui a des contacts au sein de l'organisation et qui lui explique l'objectif à remplir.
They ask him or tell him? Air raid on us.
IRA Don't Ask, qu'on pourrait traduire par l'IRA ne demande pas mais se sert, c'est le nom de cette mission supplémentaire où Lincoln doit donc voler des voitures qui serviront de bombes pour que les flics continuent de se demander ce qui leur arrive quand tout fait boum, explique Burke, stéréotype d'Irlandais porté sur l'alcool et la violence. Le scénario a fortement déplu aux responsables unionistes les plus conservateurs de l'Ulster. Le leader du parti La Voix unioniste traditionnelle, Jim Allister, parle d'une glorification nauséabonde de l'IRA et de la violence. Une violence banalisée, estime le député Jeffrey Donaldson, membre du parti unioniste démocrate actuellement au pouvoir et pour qui l'organisation a tué beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Il a d'ailleurs invité les créateurs du jeu à rencontrer des familles de victimes du terrorisme et a même demandé jusqu'au retrait du jeu des magasins, tandis qu'un conseiller municipal de Belfast a promis d'entrer en contact avec les développeurs et l'éditeur qui, de leur côté, n'ont pas répondu aux critiques, alors que Mafia 3, sorti depuis près d'un mois déjà, est toujours numéro 2 des ventes de jeux vidéo au Royaume-Uni.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Une chronique musique nordique ce vendredi.
Je vous propose aujourd'hui de découvrir le travail de Sacha Siem, compositrice anglo-norvégienne qui publie cette semaine son deuxième album, l'ambitieux Bird Burning. Ambitieux parce qu'il va chercher loin son inspiration du côté de textes médiévaux, mais aussi du chant de transe du peuple Sami, le peuple indigène de Norvège, ou encore de chansons traditionnelles du 19e siècle, le tout assimilé par une jeune femme qui a étudié la musique dans les plus grandes écoles britanniques et est la plus jeune titulaire du British Composer Award. Les chansons de Sacha Siem sont souvent courtes et jouent sur les reliefs imprévisibles de percussions, vents et acrobaties vocales. Si certaines mélodies sont parfois déroutantes, d'autres épousent aussi les formes d'apparence plus classiques d'une pop aux arrangements sophistiqués.
For you, I carry fire in my pockets, in the sockets of my body. I am the sun for a moment, slinky pink and seen only in a reflection. The hand in the fire beckons and reaches for something strong and strokes the flame.
Burning, extrait du second album de Sacha Siem pour clore cette dernière émission de la semaine, réalisée et mise en onde par Jérémy Besset. Attention, lundi, nouveaux horaires, on se retrouvera désormais à 12h40 temps universel sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique, et toujours à 17h40 temps universel toute cible, soit 18h40 à Paris. Nouvel horaire de diffusion donc dans la capitale française. Info à retrouver sur RFI.fr à la page émissions.